Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Jonathan Fruoco, médiéviste et professeur agrégé d'anglais. Son travail de recherche porte sur l'évolution culturelle et linguistique de l'Angleterre médiévale avec un intérêt particulier pour l'œuvre de Geoffrey Chaucer. Avec lui, nous allons revenir dans ce podcast sur un épisode marquant de l'histoire anglaise, les invasions normandes. Comment Guillaume le Conquérant va transformer en profondeur le visage de l'Angleterre ? Comment vont évoluer les structures sociales, la religion, la langue, la littérature ? Nous aborderons ces sujets et bien d'autres avec, en bonus, un focus particulier sur la figure de Robin des Bois. C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Bonsoir Jonathan, comment vas-tu ?
Bonsoir à tous, ça va super, merci Benjamin de l'invitation.
Un grand plaisir, on a commencé à travailler un petit peu ensemble sur certaines thématiques et là c'est cool, on va pouvoir en discuter pendant 2 heures ensemble, si c'est pas beau.
Exactement, ouais.
Jonathan, donc ce soir on va parler des invasions normandes de l'Angleterre médiévale. Invasion normande, ça regroupe quand même pas mal de choses, et donc on va revenir ensemble sur le contexte un petit peu, que ça soit, parce que c'est vrai qu'invasion normande, on pense tout de suite à Guillaume le Conquérant, mais il n'y a pas que ça, ça commence bien plus tôt.
C'est ça, ouais, ça va s'étendre en fait, l'influence normande en fait sur l'Angleterre à l'époque, elle commence à se mettre en place beaucoup plus tôt, bien avant 1066, et c'est un peu, en fait, l'invasion normande, c'est un peu la conclusion, si on veut, en 1066, c'est la bataille d'Hastings, de déjà plusieurs décennies d'influence du continent, les différents jeux de pouvoir qu'il y a pu y avoir justement, qu'on menait à cette invasion aussi, que tu avais d'ailleurs illustré dans la vidéo sur Guillaume le Conquérant. On voit bien justement l'influence de la Norvège, etc., les différents prétendants au trône, tout ça se met autour, se concrétise finalement autour justement de l'influence normande sur l'Angleterre déjà avant l'invasion.
C'est rigolo en plus parce que on n'a vraiment pas fait exprès, on a calé cette intervention il y a quand même quelques temps maintenant, mais hasard du calendrier, en ce moment on a Age of Empires 4 qui est sorti et justement on est en plein dedans en ce qui concerne Guillaume le Conquérant, quoi.
C'est ça, ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer à ça, mais effectivement, les premières campagnes ont l'air assez précises.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement le contexte général ? Est-ce qu'on parle un petit peu des invasions déjà vikings ou tu préfères commencer directement sur le pré-contexte Guillaume le Conquérant ?
Quand on préparait l'émission, j'ai suggéré cette idée justement d'un Moyen-Âge beaucoup plus européen. C'est quelque chose que les médiévistes essayent de mettre en avant de nos jours par rapport à une vision plus nationaliste qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Et justement, voir cette invasion-là, finalement, dans le cadre de relations beaucoup plus vastes qui vont impliquer la Norvège, la Suède, qui vont impliquer une partie, la Normandie, mais aussi le Royaume de France, puisque les deux sont indépendants l'un de l'autre encore à l'époque, l'Angleterre et différentes zones comme plus celtiques au niveau de la Bretagne. Donc tout ça, finalement, joue un rôle. Et les raids vikings qui commencent au 8e siècle, notamment par le pillage des abbayes de Jarrow et Lindisfarne, vont justement contribuer finalement à développer une certaine vision de l'Angleterre comme un royaume unifié. Et c'est par ces raids successifs, à partir du 8e siècle, qu'on va arriver à un stade en fait où l'Angleterre à l'époque, et c'est une des cartes justement que je vous ai envoyée, celle où on voit l'heptarchie, donc celle où tu as les 7 royaumes anglais. Sur cette carte, justement, on voit un peu l'état de l'Angleterre au moment où les Vikings commencent à envahir. Donc on voit qu'on n'a pas absolument pas un royaume d'Angleterre unifié, on a plutôt cette notion d'heptarchie, donc de 7 royaumes distincts avec un roi chacun et donc des rivalités qui sont forcément ce qu'elles peuvent être dans ce genre de contexte. Et les Vikings vont arriver là-dedans, ils vont un peu dynamiter le truc, sauf que petit à petit, ils renversent les différents royaumes les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Alfred le Grand face à lui, qui va unifier en fait les royaumes du sud et de l'ouest de l'Angleterre, et qui va réussir à contrer complètement l'avancée viking, en unifiant ce qui reste des nations anglo-saxonnes, et négocier un traité qui va implanter pendant un temps, les Vikings, sur le territoire anglo-saxon. Et donc, on va créer quelque chose qui est le Danelaw. Et donc, on voit que cette carte, en fait, les Vikings récupèrent quand même une partie conséquente de l'île, puisque le Danelaw va être sous, comme son nom l'indique, administration danoise. et influence danoise. Et ça va durer quand même un certain temps, et ça va mener d'ailleurs à l'accession au trône, quelques siècles plus tard, d'un roi norvégien, Knut, qui va être décrit non plus, et qui va se vendre non plus comme un roi des Anglais, mais le roi de l'Angleterre. Donc c'est le premier, si on veut, souverain qui va unifier ces différents royaumes et qui va tous les mettre à sa botte de par son influence, de par ses politiques, etc. Et ça va aussi contribuer d'une certaine manière, l'arrivée des Vikings, donc à changer non seulement la langue anglaise, mais aussi le contexte politique, le lien par rapport à la Normandie, notamment par justement différents mariages. Donc quand on arrive à 1066, l'invasion, elle est aussi provoquée par les différents prétendants au trône, et Édouard le Confesseur, qui est roi d'Angleterre à ce moment-là, a un demi-frère qui est norvégien, qui est viking, qui est aussi prétendant au trône, dans le sens où tous les deux descendent d'Emma de Normandie, qui a épousé tour à tour un roi anglo-saxon et ensuite un roi norvégien. Donc on voit les dynasties, les différentes dynasties ont toute leur légitimité. Et donc, voilà, on va arriver à un stade où tout ça va converger, tout ça va s'agglomérer autour du trône, avec la question finalement qui est l'héritier légitime d'Édouard le Confesseur, qui lui a promis sa couronne un peu à tout le monde en fonction des situations et en fonction des besoins.
Oui, et alors on reviendra sur ce contexte-là d'ailleurs dans un épisode dédié à un des protagonistes d'ici la fin de l'année, hein, qui est Harald Hardrada. Mais donc on a trois figures qui vont se battre pour la succession d'Édouard le Confesseur. Harold Godwinson, qui est en gros, on va dire, adoubé par la noblesse en Angleterre et qui est le prétendant légitime sur le coup. On a Harald Hardrada, qui est le roi de Norvège, qui lui aussi revendique les terres. Et Guillaume le Conquérant, enfin le futur Guillaume le Conquérant, Guillaume de Normandie, qui est le fils du cousin d'Édouard et qui va débarquer dans l'Angleterre pour lui aussi revendiquer sa part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le climat politique entre ces trois forces-là et pourquoi ils revendiquent, quelles sont leurs légitimités et comment ils vont rentrer dans ce jeu
Alors, ouais, en fait, le truc, c'est que il y a donc l'influence viking qui s'était justement instaurée a mené à la bataille de Maldon en 991, avec justement donc une grosse victoire du côté des Vikings. Et suite à quoi, finalement, les Anglo-Saxons, Æthelred II, justement, qui est roi à l'époque, va devoir payer de plus en plus de tribus aux nations vikings et aux Danois. Et ça devient de plus en plus cher, et ça mène à une décision qui était un peu excessive à l'époque, hein, à savoir ce qu'on appelle le jour du massacre de la Saint-Brice, qui est, si je dis, le 13 novembre 1002, où les Norvégiens vont être systématiquement massacrés, ceux qui sont à l'extérieur du Danelaw, et ce qui va évidemment provoquer la fureur des Danois. Et on a donc différentes conséquences par rapport à ça, notamment le fait que, et je reprends mes notes parce que du coup, ça fait plein de dates, c'est notamment le roi justement Sven Barbfurchu, en 1013, donc, qui déverse sa fureur sur le royaume d'Angleterre, qui finit par envahir, qui force Æthelred II à la fuite avec Emma de Normandie justement, et tous leurs enfants, dont Édouard le Confesseur. Donc, eux vont devoir se réfugier en Normandie à ce moment-là, et Édouard va passer du temps en Normandie. Sven meurt quelques semaines après, il n'aura pas régné bien longtemps sur son territoire et sur ses conquêtes. Et donc, son royaume est divisé à sa mort entre Knut, le fils de Sven, et Edmond, le fils d'Æthelred. Donc, encore une fois, la branche anglo-saxonne et la branche norvégienne de prétendants. Et. Sauf que la Normandie ne cesse depuis des décennies d'être une menace potentielle, ce qui avait mené en fait au mariage avec Emma de Normandie, ça permettait de maintenir une certaine paix, dans le sens où l'héritier serait à moitié normand. Sauf que Emma de Normandie épouse d'abord Æthelred II, qui va finir par mourir, et elle va ensuite épouser un Norvégien, pour pouvoir justement entériner cette alliance avec la Normandie et prévenir toute invasion, dans le sens où, quoi qu'il arrive, l'héritier du trône sera de souche normande. Sauf que ça va pas se passer comme ça, évidemment, et Édouard le Confesseur, qui est donc le fils d'Emma, est couronné en 1042, en satisfaisant donc et le pouvoir, la noblesse anglo-saxonne et la noblesse normande, ça va donc satisfaire tous les partis. Sauf que de là, en fait, Édouard va se retrouver à un moment donné, donc pendant qu'il est en Normandie, il va prêter serment avec Guillaume. Il va lui promettre sa couronne, tout bêtement. D'ailleurs, l'influence de Guillaume va être essentielle, puisque Édouard va revenir sur le trône avec énormément de nobles et de prélats normands. Il va les installer au pouvoir, il va écarter de certaines positions clés des anglo-saxons, donc ça va créer une certaine forme de conflit. Sauf que donc Guillaume est, de ce point de vue-là, légitime, sauf que Édouard va aussi tour à tour ensuite promettre son trône aux deux autres prétendants à cause d'accords plus ou moins évidents, et voilà. Et sur son lit de mort, il donne aussi sa couronne au comte à Harald, et du coup on se retrouve forcément avec trois prétendants et un contexte politique assez chargé, puisque la Normandie a fin d'Angleterre depuis déjà des décennies. Elle a fait en sorte, par des mariages et des alliances politiques, d'affirmer cette fin-là. Sauf que Édouard étant écarté à la mort d'Édouard le Confesseur, ce ne sont plus et c'est plus Guillaume qui récupère la couronne comme ça avait été promis, puisque Édouard meurt sans descendance. Mais ce sont les autres prétendants qui vont récupérer. Et ça va mener donc à cette croisade, qui va être d'ailleurs adoubée par le pape Alexandre à l'époque. Et quand Guillaume donc va franchir la Manche avec ses mercenaires et ses armées, puisque c'est l'invasion normande, mais son armée est constituée de Pictes, elle est constituée de Picards, elle est constituée de Normands, il va complètement renverser et bouleverser le cours des choses en Angleterre, d'un point de vue culturel, d'un point de vue dynastique, évidemment, d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue plus concrètement politique et social, puisque le modèle féodal, on va le voir, a complètement changé suite à ça.
On va le voir, alors juste pour simplifier les choses, histoire que les gens comprennent bien le truc, Édouard le Confesseur donc va mourir, on a le comte du Wessex, Harold Godwinson, qui reprend la couronne de l'Angleterre. À ce moment-là, on a le roi de Norvège, Harald Hardrada, qui va rusher, dans le jeu vidéo on dit ça, c'est-à-dire qu'il va tenter un rush, c'est-à-dire arriver le plus vite possible en Angleterre pour se confronter à Harold et revendiquer le trône avant que Guillaume ne puisse débarquer et le revendiquer à son tour. Donc Harald débarque, il ne faut pas confondre les deux, hein, Harald et Harold, Harald va débarquer en Angleterre et commencer à attaquer quelques positions. Malheureusement, il va se faire surprendre par Harold qui vient à sa rencontre et Harald va se faire massacrer. Donc les Norvégiens exitent à la bataille de Stamford Bridge en 1066. Ils se prennent un bon coup de pied dans le derrière et ils rentrent chez eux. Voilà. Alors, il a quand même eu son rôle à Harald, puisque finalement, avec ces attaques-là, il a quand même affaibli l'armée d'Harold. Donc Harold va se retrouver confronté à Guillaume qui débarque avec ses unités. Je crois que c'est à peu près 8000 soldats à pied, 3000 cavaliers, quelque chose comme ça. Et donc Guillaume arrive à poutrer Harold Godwinson, qui du coup va devoir laisser sa place à Guillaume. Faut bien préciser quand même, hein, Jonathan, que à ce moment-là, Guillaume n'a pas encore tout gagné. C'est-à-dire que la victoire n'est pas immédiate. Il va falloir encore imposer sa force dans toute l'Angleterre.
C'est ça. Ça va mettre vraiment des années en fait pour réussir à pacifier l'Angleterre. Et d'ailleurs, la politique de Guillaume va changer en cours de route, puisque au tout début, il est couronné à Noël en 1066 à l'abbaye de Westminster. Et dans les premiers temps, il n'essaye pas forcément de changer radicalement les choses dans le royaume. Il essaye d'être relativement modéré dans sa façon de prendre le pouvoir, sauf qu'il va y avoir énormément de révoltes qui vont se mettre en place, à travers, notamment au nord de l'Angleterre, et puis on va continuer d'avoir des raids réguliers de la Suède et de la Norvège pour essayer de renverser les choses. On va avoir les petits-fils d'anciens rois anglo-saxons qui vont essayer aussi de mener des bouts de révolte. Et Guillaume va être obligé de prendre les armes et de changer son fusil d'épaule. Il va marcher notamment sur le nord de l'Angleterre et les chroniques nous vantent en fait l'armée de Guillaume et sa pratique absolument magistrale de la désertification de plusieurs territoires au nord de l'Angleterre qui ont permis de calmer un peu tout le monde, en fait. Clairement, il est arrivé, il leur a mis des grandes tatanes, ça a calmé tout le monde. Et au bout de 2 ans, tranquillement, ensuite, il a commencé clairement petit à petit à confisquer des terres, à construire de plus en plus de châteaux, à pacifier le territoire à sa manière. Et ça a marché, puisque pas loin de 1000 ans après, on continue d'avoir des descendants de Guillaume le Conquérant sur le trône d'Angleterre.
Donc la diplomatie, oui, mais les tatanes d'abord.
Les tatanes, ça marche toujours mieux que la diplomatie. Je crois que c'est ce que l'histoire nous a appris.
C'est triste. c'est hyper triste, ça me rassure pas beaucoup pour la suite. comment Guillaume va s'y prendre de façon très pragmatique? Moi, j'avais réalisé par le passé un épisode sur le Domesday Book, qui est un état des lieux assez intéressant de l'Angleterre que Guillaume va réaliser. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
L'avantage du Domesday Book, c'est justement faut remplir les caisses, et surtout, c'est comment asseoir définitivement son pouvoir sur la totalité du royaume. Donc, il va dépêcher des émissaires un peu à droite à gauche, tout va être scruté, tout va être analysé pour savoir qui possède quoi. Et l'avantage, c'est, d'un point de vue d'historien, de nous donner un cliché très net, très propre d'un instant T dans l'histoire d'Angleterre, au niveau de la population et de ses richesses. Et surtout, pour Guillaume, ça lui permet clairement de taxer justement et d'aller confisquer les terres là où il faut. On peut plus lui cacher complètement finalement ce qui se passe, et ça va lui permettre d'administrer de manière bien plus efficace le royaume d'Angleterre, qui jusqu'à peu, comme on a pu le voir, était tout simplement divisé en différents royaumes avec chacun son mode de fonctionnement. C'est tout récent, une administration centrale, et Guillaume va clairement centraliser le pouvoir de cette manière-là grâce au Domesday Book, qui est un peu qui est très symbolique, mais finalement ça représente toute sa politique à Guillaume.
Donc c'est un inventaire où en gros il arrive, il conquiert le territoire, et là il se dit bon, c'est bien, j'ai calmé tout le monde, maintenant qu'est-ce que j'ai, quoi, quel territoire, quelle richesse, et donc l'inventaire, voilà, le Domesday Book, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans exactement?
On y trouve différents éléments par rapport aux populations, qui possèdent par exemple tant de terres, au niveau des richesses de chacun, que ce soit les richesses matérielles, le bétail, etc. Ça va du petit paysan jusqu'à la noblesse, tout le monde est recensé. C'est un recensement complet, très précis, qui a mis un peu de temps à se réaliser, on l'imagine, hein, c'était... Tout se faisait à la main et au porte-à-porte, mais qui était très efficace pour le coup, et ça met en place un modèle féodal derrière. Ça va permettre d'asseoir une administration continentale et un mode de fonctionnement qui est clairement tout autre que celui anglo-saxon. D'ailleurs, ce mode de fonctionnement va être clairement visible de manière très tangible dans même la restructuration de la noblesse anglo-saxonne par la noblesse normande, jusqu'au nom de les titres de noblesse vont même changer, etc.
Bah dis-nous, alors explique-nous, on t'écoute, comment est-ce qu'il arrive à mettre ces Normands justement à la place des Anglais?
L'importance pour Guillaume, ça va être de maintenir le contrôle, son contrôle sur le royaume. Donc il va administrer de manière religieuse et militaire le royaume. Il va remplacer l'archevêque de Canterbury, c'est une première chose. Ça va être l'archevêque Lanfranc, qui est normand, qui va suivre Guillaume et qui va devenir archevêque de Canterbury à partir de 1070. Ce qui va être suivi par une forme stricte de point de vue religieux d'abord, ce qu'on perçoit comme une forme de vandalisme spirituel, puisque toutes les traditions et cérémonies traditionnelles chrétiennes anglo-saxonnes, mais mêlées du paganisme finalement ambiant, puisque le christianisme en Angleterre s'était développé au contact de croyances païennes qui avaient été conservées, et les deux s'étaient un peu entremêlés et avaient grandi ensemble, sauf que l'imposition d'un christianisme déjà continentale va changer tout ça, puisque certaines fêtes vont disparaître. L'an franc, par exemple, détruit et fait banni une des festivités qui était celle liée à la Vierge Marie. Ça peut paraître étrange, mais pas mal de cultes et de croyances sur la Vierge Marie avaient été mises en place dans les territoires païens au moment de leur christianisation, parce que c'était beaucoup plus facile de s'identifier avec une forme de déesse mère pour les païens qu'avec un Christ roi masculin. Et donc, d'un point de vue religieux, on a évidemment ça, mais on a aussi au niveau de la structure sociale anglo-saxonne des changements qui sont très importants, puisque les titres traditionnels, comme par exemple Thegn, Earl, Alderman, sont tous remplacés, ces différents titres de noblesse du comte au noble, sont soit remplacés, soit modifiés. Par exemple, l'alderman va passer de quelqu'un administrant de larges territoires à, en gros, un simple conseiller municipal. Donc, on voit le mec, c'était plus ou moins le daron avant l'arrivée des Normands, et du jour au lendemain, il est élu à la culture dans une mairie moisie, quoi. Donc, ça a été comme ça systématiquement. Et pareil, on avait un titre qui était... ça s'écrit C-N-I-H-T, en le prononçant en anglais de l'époque, ça donnerait Knirt. Et si on a un peu l'oreille linguistique, on arrive à reconnaître un autre nom en anglais moderne. Et donc le Knirt, qui était un garçon, un jeune servant, va progressivement remplacer le Thegn comme forme de petit propriétaire terrien, progressivement associé avec un chevalier. Donc le chevalier anglais, le knight d'aujourd'hui, provient de ce titre de Knirt qui était anglo-saxon, mais qui, sous l'influence des Normands, se rapproche d'une espèce de forme de chevalerie. Donc on voit, ça change assez radicalement la structure même. Et c'est aussi, en termes... on a parlé du Domesday Book, et c'est vrai qu'une des manières aussi d'administrer très clairement un territoire quand on arrive, on l'a dit, c'est de mettre des tatanes. Et du coup, ce qui était très pratique pour Guillaume, c'est notamment de mettre en place de nouvelles lois. Et on arrive à percevoir en fait la virulence du changement de ton de Guillaume d'un point de vue linguistique par justement certaines importations de mots en vieil anglais de l'époque, issu tout droit du normand. Et donc ça, c'est dans les premiers temps de la conquête, dans les premiers temps de l'administration normande de l'Angleterre, on va avoir de nouveaux mots, de nouveaux titres, on a de nouveaux rangs comme Countess, Duke, qui viennent clairement du normand et du français. On a des nouveaux concepts aussi qui sont introduits dans la langue anglaise, comme Fair Justice, et qui signifie tout bêtement pendre quelqu'un. Donc faire la justice, c'est pendre un mec. On a des concepts comme castle, prison, crucifor qui sont introduits en vieil anglais. Crucifor, c'est un instrument de torture, pas forcément sous forme de boîte. Alors je laisse imaginer un peu à quoi ça peut servir. On a des références aussi à des châteaux qui sont construits. Guillaume va construire énormément de châteaux à travers tout le territoire anglais pour justement pour héberger des soldats normands qui vont pouvoir contrôler le territoire. Et un des châteaux, plus tard après Guillaume, construit par Guillaume II, appelé Méluzin, et qui est défini par des chroniqueurs derrière anglo-saxons comme un quartier un peu maléfique. Donc on voit que l'influence normande est perçue clairement par les anglo-saxons, par les administrés, comme une forme de violence, comme une forme d'imposition. Ces châteaux sont perçus comme étant maléfiques par moment par certains chroniqueurs, puisque si on y finit, on y est torturé. Et c'est clairement, en fait, d'un point de vue linguistique, ce genre de terme qui va intégrer le vieil anglais, si vous voulez, c'est vraiment les premiers mots qu'on retrouve, et c'est le genre de truc en fait qu'un prisonnier apprendrait de son garde qui parlait une autre langue. C'est vraiment relatif à la justice, à la violence, à la torture. C'est les premiers trucs qu'on capte. Et là, c'est clairement ça.
J'imagine que ça a dû créer une fracture sociale absolument énorme entre les élites et le reste de la population. Et puis, même ceux qui se sont fait remplacer, il doit y avoir un ressenti particulièrement fort. Comment est-ce qu'ils ont réussi à contenir tout ça? Est-ce que ça a été par la force du nombre? J'imagine que les Normands étaient moins nombreux que les Anglais, quand même, sur leur propre territoire. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient pour faire régner cette loi, justement?
Ils sont effectivement moins nombreux parce que les Normands sont... quand ils s'installent après la conquête, donc dans les mois qui vont suivre le couronnement de Guillaume, on estime qu'ils sont entre 50 et 60 000 à s'installer en Angleterre face à 1,5 million d'anglo-saxons. Donc on voit, c'est vraiment une poignée d'individus, mais à des postes clés, à des positions stratégiques qui vont permettre de radicalement contrôler le territoire. Sauf que cette fracture sociale, justement, comme tu le dis, elle existe, elle est là, mais étant donné que les révoltes sont matées assez violemment et qu'il y a une forme de répression et de déstabilisation, puisque la culture va changer, l'approche de la religion va changer, il y a pas mal de choses qui vont être transformées, et surtout, on va avoir une division très nette entre les élites normandes et la population qui va continuer de parler sa langue, son vernaculaire, comme on dirait, donc leurs différents dialectes qu'on définirait aujourd'hui comme du vieil anglais. Et sauf que le pouvoir normand s'étant installé et semblant durer, les populations finalement se sont un peu faites au changement, à l'unification du pays, et qui a pour le coup, il mérite de débarrasser finalement une grande partie du pays de raids vikings incessants depuis le 8e siècle. Donc, c'est déjà ça, ça a de ses mérites. Ça contribue évidemment au développement du pays, hein, puisque ça va implanter, ça va faire du royaume d'Angleterre l'Angleterre médiévale telle qu'on la connaît. Elle a été ce qu'elle a été grâce aussi à l'influence des Normands et au développement du pays. Et voilà, on va avoir une population qui continue. On peut avoir, l'exemple type, ça va être un propriétaire terrien qui parle normand, enfin anglo-normand, et les paysans qui vont travailler la terre qui ne parlent que leur dialecte vieil anglais. Donc on va avoir par moment une impossibilité de communiquer assez forte, mais ça va se faire, et petit à petit, les choses vont graduellement évoluer dans le bon sens avec... C'est la même chose, en fait, un peu avec les Vikings. On a tendance à voir les Vikings comme... et clairement, la série n'a pas aidé, hein, la série Vikings, comme des punks à chiens et des brutes arrivant sur des territoires, brûlant tout et s'installant. Alors que ce que l'histoire nous montre, c'est au contraire des administrateurs qui vont développer la culture et le commerce. Et c'est finalement la même chose avec les Normands. Une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils ont pacifié le territoire, les Anglo-Saxons eux-mêmes n'ont plus tant intérêt finalement à trop se rebeller, puisque le pays tourne, le pays, ils sont en sécurité, ils sont des raids vikings, et surtout il y a une certaine forme de prestige qui s'installe grâce à cette nouvelle noblesse qui vient du continent. Et la langue va évoluer dans ce sens où finalement les Anglo-Saxons vont commencer à changer leur façon de parler en fonction du contexte social dans lequel ils se trouvent pour pouvoir faire écho à cette élite. Et donc, c'est comme ça aussi que, petit à petit, les deux vont se lier les uns aux autres, sauf que ça prend du temps, effectivement, et on voit dans les premiers temps, par exemple, Guillaume le Conquérant, Guillaume Ier, n'a par exemple jamais pris la peine d'apprendre... Le dialecte local, quoi. Il s'est toujours contenté de parler sa langue, ce qui fait que quand il devait communiquer avec des évêques ou avec des nobles anglo-saxons, il communiquait en latin, ce qui servait de lingua franca, de langue commune. Donc, ça s'est plus ou moins pacifié petit à petit.
Pourquoi Guillaume a réussi là où les Vikings n'ont pas échoué, mais il n'y a pas eu d'unification sous les Vikings? Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas réussi à transformer l'essai comme Guillaume l'a fait, justement?
Les Vikings ont clairement gagné la guerre face aux Anglo-Saxons, puisqu'ils ont fini par avoir un roi norvégien unifiant l'Angleterre, sauf que ça ne dure pas, parce que il y a une assimilation culturelle forte, qui est rendu possible justement par la proximité des deux populations. Que ce soit les Vikings ou les Anglo-Saxons, ils ont pratiquement à peu de choses près la même langue, ils ont les mêmes croyances, ils ont la même culture. Si les Vikings vénèrent Odin, on a tendance à oublier que les Anglo-Saxons ont un jour de la semaine qui s'appelle Wednesday et qui est littéralement Woden's Day, le jour d'Odin, Woden étant la variante anglo-saxonne d'Odin. Donc les divinités sont les mêmes. Même si le christianisme est passé par là, le fondement même de leur culture sont les mêmes. Et si on regarde un arbre linguistique, sur cet arbre-là, on peut voir finalement la descendance des langues proto-indo-européennes, hein, qui va être l'espèce de rameau principal, et ses différents dérivés. Et on voit que le vieil anglais et le vieux norrois, la langue des populations vikings, sont clairement cousines. Donc, les langues sont cousines, les cultures, les croyances vont être cousines, ce qui fait que quand les Norrois s'installent en Angleterre, que le Danelaw d'abord est instauré, puis qu'ensuite on a un roi norvégien, bah, il n'y a pas la nécessité, si tu veux, de complètement prendre le contrôle du pays, dans le sens où, de leur point de vue, ça va, ils y sont, ils se comprennent à peu près. Il y a une grosse simplification de la langue du vieil anglais qui est faite au contact des Vikings, mais à peu de choses près, ils se comprennent, et voilà. Donc là où Guillaume arrive avec une culture qui est différente, avec une langue différente, une approche de la chrétienté qui est différente aussi, et une forme de féodalisme beaucoup plus continentale, beaucoup plus rigide.
Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu la spécificité du modèle normand par rapport à...
Par rapport à la religion ?
Même d'un point de vue politique, ça peut être les deux.
Par rapport déjà à la religion, par exemple, la christianisation des îles britanniques s'est faite progressivement. Elle s'est faite après le départ des légions romaines de l'Angleterre. Tout bêtement, alors je vais vous dire ça, j'ai noté des dates un peu plus précises là. Donc on a les légions romaines se retirent définitivement en 449 de notre ère des îles britanniques, là où la première mission de christianisation menée par saint Augustin arrive en Angleterre en 597. Et que donc c'est Augustin et 50 moines envoyés par le pape Grégoire qui vont commencer à convertir petit à petit le territoire. Sauf que là où sur d'autres secteurs en Europe du Nord notamment, ils ont pu être accueillis avec beaucoup plus de virulence, lorsque les missionnaires chrétiens arrivent sur les côtes anglaises, ils arrivent dans le Kent et ils rencontrent le roi Ethelbert qui leur dire, en gros, je ne peux pas forcer mon peuple à se convertir, mais je ne vous tuerai pas pour autant et je ne vous empêcherai pas de prêcher. Donc, essayez de convaincre qui vous voudrait de vous rejoindre, je vous laisserai faire. Donc, il y a une ouverture tout de suite, en fait, sur la possibilité d'une conversion qui n'est pas accueillie avec virulence, qui n'est pas accueillie comme une invasion. Donc, ça va se faire dans ce sens-là avec une forme de coopération. Et donc, les croyances locales vont se mêler aux nouvelles formes de christianisme, d'autant plus qu'ensuite, c'est surtout via les missionnaires venus d'Irlande qui avaient commencé par prêcher en Irlande, notamment Saint Brendan, etc., qui vont propager véritablement le christianisme à travers toutes les îles. Et donc, on a une forme de christianisme beaucoup plus open bar, si tu veux. On n'a pas de problème à traduire la Bible en autre chose que du latin ou du grec ou de l'hébreu. C'est d'ailleurs Bède le Vénérable, donc traduit à un moment donné la Bible, une partie de la Bible en vieil anglais. Sauf que sur le continent, l'approche est complètement différente. Elle est vachement plus rigide, on est beaucoup plus proche de Rome et on a déjà beaucoup plus d'interdits. Ce qui fait que quand Guillaume arrive et change les archevêques et certains évêques, on va avoir une certaine rigidité qui va s'instaurer par rapport à tout ça. On va faire un pas en arrière et on va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et d'un point de vue féodal, c'est aussi la même chose. C'est que d'un point de vue politique, ce pouvoir continental-là est beaucoup plus proche de ce qu'on va avoir en France dans les siècles qui vont suivre, avec une administration beaucoup plus, comme j'ai pu le dire, centralisée, avec une noblesse beaucoup plus structurée et des façons de faire qui sont loin de ce que pouvaient faire les germaniques, parce que très clairement, les anglo-saxons, les anglais, à l'époque, sont germaniques.
Et alors justement, quand tu dis que ça se rigidifie beaucoup dans la religion, ça se manifeste comment pour les croyants au jour le jour? Est-ce que ça, on a des traces ou pas? Parce que j'imagine que du coup, si dans les hautes sphères, ça commence à être un peu plus strict, très rapidement, même dans les cultes, il y a des choses, bon, tu évoquais tout à l'heure la Vierge Marie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses très concrètes qui vont impacter la vie des gens?
Ça va être assez progressif, mais disons que ça va être des festivités qui vont sauter, ça va être une certaine souplesse et une certaine flexibilité qui va disparaître. Là où avant, finalement, il y avait... Je vais te donner un exemple tout bête. On a retrouvé des archéologues, ont retrouvé il y a pas mal de temps, des moules qui servaient notamment, je crois que c'était au niveau du Danemark ou de la Norvège, je ne vais pas dire de bêtises, à fabriquer des médaillons qui, d'un côté, représentaient la croix du Christ, le crucifix, et de l'autre, le marteau de Thor, Mjolnir. Et on a cette anecdote d'un personnage, je ne sais plus dans quelle chronique on a ça, qui, devant traverser un bras de mer en bateau, et étant pas du tout rassuré, en fait, en plein milieu de l'eau, se met à prier Thor de lui venir en aide. Et une fois qu'il a retraversé son truc, à terre, il retourne sa croix et il redevient chrétien. Donc, en fait, on a eu pendant un certain temps cette coexistence possible et qui n'était pas du tout malmenée par les évêques, etc. C'était parfaitement accepté. Et d'ailleurs, les missionnaires et les premiers archevêques de Canterbury, on a des exemples de correspondance avec les papes qui leur demandent, en fait, qu'est-ce qu'on fait des cultes locaux? Est-ce qu'on doit les bannir? Est-ce qu'on doit les détruire? Et les papes de l'époque qui vont très clairement leur indiquer, faites avec. Ce sera plus simple. Détruisez-les dans la mesure du possible, mais réadaptez-les avec nos croyances et ce sera beaucoup plus facile de convertir tout le monde. C'est ce qu'ils font et c'est ce qui fait que le christianisme en Angleterre se développe de cette façon-là. À partir du moment où Guillaume commence à changer la donne et on a l'imposition d'un christianisme plus rigide, un peu plus continental qui se met en place, ça va donner après progressivement une forme de rigidité qui s'installe et qui va mener jusque tard dans le Moyen-Âge sur des formes de répression assez sévères, avec des bûchers pour tentative de traduction de la Bible, etc., des formes d'hérésie qui sont de plus en plus marquées pour X ou Y raison, là où avant, ce genre de choses n'étaient même pas proscrites, même pas regardées d'un mauvais œil.
Alors, ça va prendre combien de temps ce processus de transformation aussi de la langue et d'imposition finalement d'une influence très forte normande dans la langue?
D'un point de vue linguistique, dans les premiers temps, il n'y a pas grand-chose, assez étonnamment, puisque ce qu'on appelle communément l'anglo-normand et qui sert en fait à désigner les dialectes parlés par cette noblesse normande installée en Angleterre après la conquête, va pas avoir une influence absolument renversante sur les dialectes vieux anglais. Pour la simple et bonne raison, et comme on l'a dit, ils sont peu nombreux, il n'y a pas vraiment d'échange avec la population. Et ça dure, si vous voulez. Noter quelque chose par rapport à ça. Voilà, on a un linguiste du 19e siècle, un linguiste norvégien qui s'appelle Otto Jespersen, qui a prouvé de manière statistique, en étudiant les différentes formes écrites, l'évolution du vieil anglais au moyen anglais, donc entre à peu près l'époque de la conquête de Guillaume le Conquérant et le moyen anglais, ça va être aux alentours du 14e siècle, quelques siècles plus tard. On voit qu'entre 1066 et le 12e siècle, la progression des emprunts de mots anglo-normands par le vieil anglais est très faible, là où ça explose à partir du XIIIe siècle. Or, qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle? C'est justement la conquête de la Normandie par le royaume de France et la scission. On a une séparation. C'est-à-dire que ceux qui étaient normands et en poste en Angleterre depuis 1066, donc depuis quand même quelques temps, ça fait plusieurs générations de dignitaires qui sont nés sur le sol anglais, qui vont avoir un choix à faire. En gros, c'est soit ils sont français, soit ils sont anglais. Et là, on va avoir une scission assez radicale. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça va être l'influence du vieux français, du français parisien, et non plus de l'anglo-normand, qui va arriver par vagues et qui va progressivement transformer la langue anglaise. Et c'est vrai que c'est vraiment du XIIIe au XIVe siècle, c'est sur ces deux siècles-là que tout se joue et où le vieil anglais change vraiment très vite et de manière suffisamment radicale pour que tous les linguistes considèrent que la langue de Shakespeare, même si elle est proche de la langue que pouvaient parler par exemple les rois Ethelbert et Alfred, même si elle en est proche, elle n'en est pas la descendante directe. C'est vraiment, ça dévie à un moment donné avec cette influence du français. Ce qui fait qu'on va perdre notamment toute la rigidité un peu syntaxique des langues germaniques, on va perdre toutes les déclinaisons, on va avoir beaucoup plus de mots-outils qui vont permettre d'expliciter le sens de la phrase pour permettre de communiquer. Et quand on voit l'anglais finalement au XIVe siècle tel qu'il est écrit, il est vachement plus facile à lire pour un français que pour un anglais aujourd'hui, parce qu'il y a essentiellement des mots français. Et d'ailleurs, un exemple tout bête, le premier vrai poème à être recomposé en anglais suite à l'invasion normande, c'est Chaucer et c'est le livre de la Duchesse. On est en 1368, c'est la première fois qu'on se remet à composer dans la langue native du pays. Le livre de la Duchesse, c'est 1300 vers et c'est 1000 vers qui ont un équivalent dans des poèmes français. C'est des traductions directes. Donc on voit l'influence de la culture et parce que prestigieuse française à partir du XIIe siècle a complètement changé la donne. Là où Guillaume, finalement, pendant de 1066 à 1204, 1205, les Normands sont installés et l'Angleterre est une colonie du duché de Normandie, mais on n'a pas véritablement d'unification qui se crée et c'est vraiment à partir du XIIe siècle que les choses changent.
Et alors, justement, au moment où Guillaume va changer toute cette administration et va mettre de nouvelles personnes à des postes clés, du coup, si je comprends bien, on va avoir des nobles qui parfois vont être à la fois en Angleterre, mais aussi en Normandie, qui vont pouvoir faire des allers-retours aussi, non ?
Ouais, bah il y en a qui mettent même jamais forcément les pieds en Angleterre, mais c'est surtout que il y en a beaucoup donc qui décident d'aller de suivre Guillaume. D'ailleurs. Ça me fait penser à une des questions qu'on a pu avoir sur Twitter ou sur Facebook par rapport à Walt Disney, comme quoi est-ce que c'était lié effectivement à la ville d'Isigny. Effectivement, en fait, c'est les seigneurs d'Isigny ont été faits seigneurs d'Isigny parce qu'ils avaient accompagné Guillaume depuis la Normandie pendant la conquête de l'Angleterre, etc. Donc il y a des gens qui sont montés en grade du jour au lendemain parce qu'ils ont fait confiance et parce qu'ils ont suivi Guillaume et qui se retrouvent avec des terres et qui se retrouvent avec des titres de noblesse et qui vont, tout en étant normands, avoir finalement des enfants, concevoir petit à petit, ils vont se marier avec aussi, ils sont pas nombreux à arriver là-bas, donc ils évitent la consanguinité. Ils se marient aussi pas mal avec des anglo-saxonnes, avec des anglaises. Et petit à petit, finalement, ces nobles normands, tout compte duc qu'ils peuvent être, vont se retrouver avec des enfants à moitié anglais qui sont élevés par des nurses qui parlent anglais et qui ont et leurs enfants vont avoir comme langue maternelle, d'une certaine manière, l'anglais.
Donc il va y avoir le phénomène inverse qui va se créer, du coup, en Normandie, quoi.
C'est ça. C'est que sur cette période-là, jusqu'à justement la séparation de la Normandie et de l'Angleterre, il y a une certaine forme d'assimilation qui va se faire en Angleterre avec cette élite normande qui devient de génération en génération un tout petit peu plus anglaise à chaque fois.
Et ça va perdurer aussi ou...
Ça se fait assez rapidement, mais ça perdure. Et vraiment, le moment fatidique, c'est le début du XIIIe, quand on a cette scission, ce qui fait que ils se rendent compte qu'ils sont plus anglais que normands, les types, parce que ça fait trois générations qu'ils sont nés en Angleterre. Et d'ailleurs... La guerre de Cent Ans qui va éclater quelques temps après, on a finalement l'aristocratie anglaise qui parle français et qui se bat contre des rois de France. Ils parlent tous français, ils sont tous cousins, ils sont tous héritiers potentiels des trônes les uns des autres, parce que justement, en Angleterre, on a eu toute cette noblesse-là depuis l'époque de Guillaume le Conquérant qui est restée attachée à la France.
Une petite question d'ailleurs, dans tout ce changement qu'il y a eu, on peut imaginer que l'Angleterre pré-Guillaume avait quand même des relations commerciales, culturelles assez fortes avec d'autres territoires assez proches, comme l'Irlande ou l'Écosse. L'Irlande, hein, Dublin, c'est un port qui a été fondé par les Nordiques aussi. Est-ce que, une fois que le territoire anglais a été soumis par Guillaume, est-ce qu'il continue à entretenir ses relations commerciales, culturelles avec ces territoires-là? Et est-ce que là aussi, ça peut avoir une certaine forme d'influence avec ces territoires ou pas?
Alors moi, mon approche est fondamentalement beaucoup plus linguistique et littéraire à la base. D'un point de vue commercial, je pense qu'une fois le changement dynastique mis en place, c'est pas forcément dans l'intérêt de Guillaume, justement après le Domesday Book, quand il cherche un peu à rentabiliser les choses et à faire un état des lieux des richesses du royaume, de couper court aux différentes relations commerciales qu'il y a pu y avoir. Donc c'est compliqué, on le sait, avec l'autre partie, Norvège, Suède, etc., de renouer tout de suite des relations diplomatiques pour des raisons évidentes. Mais avec le royaume de France, très clairement, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va développer largement les relations, puisque la conquête de l'Angleterre est faite, comme j'ai dit, avec la bénédiction du pape, mais aussi avec les soutiens du roi de France. Donc, on a des accords qui vont se mettre en place et des relations qui vont se développer. On va finalement avoir même de nouvelles relations qui vont permettre à l'Angleterre de s'enrichir d'une certaine manière. C'est important. On a tendance, c'est vrai, à voir ça comme on parle d'invasion normande, on parle de conquête, etc. Il y a effectivement le côté militaire. Il y a effectivement des violences qui ont été engendrées par ça, c'est normal malheureusement, mais voilà, c'est comme avec les Vikings, c'est aussi intéressant de voir finalement ce que ça a pu apporter au développement d'une civilisation, ce genre de changement assez majeur, et c'est assez intéressant de voir, d'un point de vue commercial justement, que ça a pu ouvrir de nouvelles portes, notamment avec le continent.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Et alors, au niveau de la langue écrite, c'est sur quel support qu'on a pu voir peut-être en premier émerger, enfin, j'imagine que c'est surtout des papiers administratifs ou des lois ou des choses comme ça. Est-ce que, rapidement, ça a pu s'étendre à la littérature, par exemple?
Alors, ça a été assez long pour la littérature, puisque, comme je le disais, il faut attendre le XIVe siècle, 1368, pour que vraiment le moyen anglais redevienne une langue littéraire. Pendant longtemps, la langue anglaise est restée la langue du peuple, et donc elle a perdu de son prestige puisqu'elle a été boutée un peu hors de toutes les fonctions principales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Le latin a repris ses droits dans l'Église. D'un point de vue politique et diplomatique, c'était soit l'anglo-normand, soit l'ancien français, soit le latin qui était surtout important. Donc, c'est vrai que Ça a pris un peu de temps, et d'un point de vue littéraire, les textes eux-mêmes, à l'époque, on a surtout effectivement des documents, des chroniques historiques qui vont retracer les événements, qui permettent de voir l'évolution de la langue. Et ce qui est important, c'est de voir à quel point, finalement, en quelques temps, en quelques siècles, cette langue anglo-saxonne a pu évoluer de manière assez magistrale. C'est-à-dire que c'est une langue très jeune. Il faut quand même se rappeler que les Celtes sont implantés sur le territoire depuis pas loin de 4000 ans quand les tribus germaniques envahissent les îles britanniques à partir du 5e siècle. Donc c'est une invasion massive, c'est une migration massive depuis les côtes européennes avec des populations qui vont complètement supplanter les Celtes, puisque les Celtes se réfugient soit en Irlande, soit en Écosse, soit au Pays de Galles, de l'autre côté des monts Cambriens, soit en Bretagne actuelle, en France, en Armorique, d'où le nom Bretagne par opposition à Grande-Bretagne. Et donc les Anglo-Saxons ont une culture très orale à l'époque, avec une langue écrite uniquement dans des contextes religieux, puisque ils utilisent l'alphabet runique, et donc c'est essentiellement des gravures sur pierre ou sur bois. C'est inadapté, bien sûr, quand les chrétiens arrivent à retranscrire des textes religieux. Donc, on va avoir une première évolution déjà de l'alphabet anglo-saxon qui va se mettre à se évoluer de manière plus cursive et qui va permettre de retranscrire tous ces sons, toutes ces sonorités germaniques avec un alphabet plus propre à retranscrire finalement toutes ces histoires chrétiennes. Et la littérature va suivre son cours de cette manière-là, va évoluer de cette façon-là aussi, avec les Normands derrière, avec l'évolution de la langue. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un changement aussi fort dynastique, religieux, politique, et où la langue la plus importante, la plus prestigieuse, n'est plus celle du peuple, la littérature tente à changer de langue elle aussi. C'est-à-dire que jusque-là, Beowulf par exemple, on est à peu près au 8e siècle, on est en vieil anglais, et on va perdre le prestige associé à la langue anglaise, qui ne devient plus que la langue des paysans d'une certaine manière. Et donc, on cesse d'écrire aussi de la poésie dans la langue du peuple. Et ça va mettre très très longtemps à revenir. Et ça va être non seulement en Angleterre, mais c'est un phénomène, encore une fois, qui est européen, puisque c'est tout plus ou moins au même moment, à partir du XIIIe, XIVe siècle, qu'en Italie, en France, en Espagne, un peu de partout en Europe, on a des clercs, on a des penseurs qui se mettent à écrire dans une langue vulgaire, littéralement, la langue du peuple, que ce soit Dante en Italie, que ce soit Chrétien de Troyes en France, etc. Et en Angleterre, donc étant donné qu'il y a un temps de retard par rapport à ça, c'est Chaucer au XIVe siècle qui avait commencé à écrire des poèmes très courts en français, décide de se remettre à écrire en anglais parce que finalement, ça va être le moyen de redonner une forme de prestige à cette langue qui a été oubliée. Et c'est de cette manière finalement que le parcours de la langue anglaise, de cette espèce de tradition orale avec un alphabet runique jusqu'à l'influence du français qui va la faire un peu disparaître mais qui va la faire évoluer, qui va d'une manière la faire grandir dans l'ombre, l'enrichir de références culturelles, de références religieuses, etc., va la faire revenir en force au XIVe siècle et donner naissance à une tradition littéraire qui continue encore aujourd'hui. Et la littérature anglaise, américaine, etc., anglophone du XXIe siècle, est-ce qu'elle est parce que au XIVe siècle, certaines personnes ont décidé de redonner une chance finalement à une langue qui était vulgaire et oubliée.
Pendant ce temps-là, du coup, entre le XIe et le XIVe siècle, est-ce que ça veut dire que les producteurs d'écriture, les auteurs, les écrivains produisaient moins, ou plutôt produisaient dans une autre langue, ou est-ce que ça veut dire que cette écriture, finalement, ces écrits, ces récits, cette littérature était continentale en fait, et elle inondait du coup l'Angleterre où il y avait localement une production un peu moindre?
C'est un peu les deux, en fait. On a une inondation depuis le continent. On a beaucoup de choses qui vont arriver en Angleterre depuis le continent, justement grâce à cette ouverture avec la Normandie. Donc on ouvre les portes, finalement, sur toute une, de nouveaux territoires littéraires, imaginaires, linguistiques. Et aussi, ça va continuer à évoluer, mais dans l'ombre, un peu, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je crois que c'est au XIVe siècle, ouais. Enfin, peu avant, en fait, on a un mouvement qui s'appelle c'est un revival qui va tenter de remettre au goût du jour, dans une Angleterre très francisée, la poésie traditionnelle anglo-saxonne, qui est une poésie allitérative, donc qui repose non pas sur des rimes en fin de vers, mais sur des sonorités internes à l'intérieur des vers. Donc la poésie germanique est allitérative, la poésie anglo-saxonne à l'époque de Beowulf est allitérative, et à cette époque-là, donc dans le XIIIe, XIVe siècle, on va avoir un mouvement d'auteurs, de poètes, qui vont essayer de relancer ça, clairement en opposition à l'influence dominante de la pensée continentale. Et ça marche pas, ça foire très clairement, parce que les centres culturels, les centres linguistiques, c'est d'un point de vue linguistique, c'est les métropoles, c'est les grosses villes, ça va être Londres, ça va être Winchester, ça va être ce genre de choses. Et c'est là où il y a le plus de nobles, c'est là où on a le plus finalement d'influence culturelle du français. Et ça passe pas, ça marche pas à ce moment-là. Ça tombe dans l'ombre. Et au XIVe siècle, encore une fois, pour te donner un autre exemple, pour vous donner à tous un autre exemple, on a donc Chaucer qui lui est hyper connu, on le connaît, on a des tonnes de documentation sur sa vie, on sait qu'à un moment donné, il était payé en barrique de vin, etc. Bon, on a même trop d'informations, il y a des trucs qu'on s'en fout, mais on les connaît. Et là où, plus ou moins au même moment, on a un autre poème qui est super connu, qui est Sire Gauvin et le Chevalier Vert, qui est de la même époque, mais pas de la même région. C'est-à-dire que Chaucer, c'est la région de Londres, et l'auteur de Sire Gauvin a un dialecte plus provincial et une forme d'écriture aussi plus archaïque avec des symboles runiques qui sont encore utilisés par moments pour retranscrire certains sons, notamment les TH anglais, là où les clercs qui ont retranscrit Chaucer avaient simplifié ça en TH et non plus en runes. Là où Sire Gauvin, Chevalier Vert, on s'en souvient encore, le poème a marqué son histoire, l'auteur, on l'a oublié complètement, on ne sait pas qui c'est. Ça a complètement été perdu parce qu'il est plus archaïque dans le langage, parce qu'il est plus difficile à lire, parce qu'il est moins bon communicant, clairement. C'est tout est question de publicité déjà à l'époque. On se souvient d'un auteur parce qu'il s'est présenté, parce qu'il s'est vendu dans ses textes. C'est l'exemple même entre cette alliterative revival quelques siècles plus tôt qui finalement essaye de lutter contre l'influence française et qui foire, et l'auteur de Sire Gauvin qui produit quelque chose de phénoménal, mais qui, parce qu'il essaye aussi d'une certaine manière de résister à cette influence française en produisant quelque chose de plus anglo-saxon, va tomber dans l'ombre et il est oublié par l'histoire. Là où Chaucer, qui, comme je l'ai dit, traduit dans le livre de la Duchesse 1000 vers de poèmes français sur 1300, 600 ans après sa mort, il y a encore des gus comme moi qui traduisent ses poèmes et qui bossent sur ces trucs. Donc, comme moi, ça marche. Ça a marché pour lui.
Jonathan, du coup, donc tu nous parlais de ces œuvres qui commencent à exploser au XIVe et qui sont reprises, notamment au XIXe siècle par la suite. On prépare ensemble un épisode. Alors, au moment où on est en train de faire cette émission, on est le 9 novembre, dans une vingtaine de jours, on va sortir un épisode sur YouTube autour de la figure de Robin des Bois. Justement, c'est un bon exemple de tout ce que tu viens de décrire.
Ouais, c'est assez intéressant parce que Robin des Bois, donc, c'est essentiellement de la culture orale aussi à ses débuts. C'est une transmission orale. C'est un genre littéraire qui est indépendant, qui est propre finalement au récit de Robin des Bois. Donc Robin des Bois, au tout début, c'est pas, vous le verrez dans la vidéo, c'est pas le noble, c'est pas Robert de Locksley comme on peut le voir dans pas mal de films. C'est un yeoman qui est une classe à l'époque de l'Angleterre, entre qui est un genre de petit paysan propriétaire de ses terres, qui est indépendant et qui est aussi une classe militaire qui est connue pour son maniement de l'arc. Et c'est justement les yeomen qui mettent une tannée aux Français à la bataille d'Azincourt avec les arquelots. Et donc, on voit, Robin est fortement associé à cette classe sociale-là, de par le maniement de l'arc, etc. Et le genre littéraire même des récits de Robin des Bois est un genre yeoman, donc c'est des trucs qui sont retransmis à l'oral pour un public. Ils se chantent ces trucs-là entre eux, clairement. C'est pas destiné à être écrit dans les premiers temps. Ça accède à l'écrit et ça évolue au fil des siècles. Et c'est quelque chose de très local, donc comme je l'ai dit, Robin se fout pas mal de renverser un roi quelconque ou de régler des torts à l'échelle nationale, hein, puisqu'il intéresse c'est la justice locale autour de Nottingham. Donc il en a après les évêques, il en a après le shérif, etc. Mais le reste le concerne pas forcément trop. Là où avec l'évolution du coup des différents récits à travers les siècles, jusqu'au XIXe siècle, on retombe sur une figure plus nationaliste, et c'est là où finalement on a un lien avec l'Angleterre normande anglo-saxonne, c'est que L'auteur qui, à mon sens, a fait de Robin des Bois une forme de figure nationaliste par excellence, c'est Walter Scott dans le roman Ivanhoé. Qui, du coup, dans Ivanhoé, en gros, on se retrouve en termes de chronologie. C'est un roman historique qui va mettre en place. Robin des Bois, c'est un personnage secondaire dans ce roman-là. Le personnage principal, c'est Ivanhoé, et qui va se retrouver pris entre la lignée normande et la lignée anglo-saxonne, et qui va essayer finalement de se retrouver dans cette Angleterre-là un peu divisée avec ses oppositions, avec ses différents clans, ses différentes dynasties. Et l'idée de Walter Scott au XIXe siècle, qui est, on le sait, un siècle très fortement attaché au développement du nationalisme. C'est, malheureusement, c'est le siècle qui a préparé les deux guerres mondiales aussi par ce développement fort de nations opposées les unes aux autres. Et ben, ce que fait Scott, c'est aussi d'essayer de dépeindre une unification d'une Angleterre. Et par Robin des Bois, par Ivanhoé, on va avoir une fusion des dynasties normandes, des dynasties anglo-saxonnes dans une Angleterre unifiée, une Angleterre anglaise qui va pouvoir finalement d'une certaine manière derrière faire face à la France pendant dans la guerre de Cent Ans, etc. Et c'est là que Robin des Bois est intéressant, c'est que pareil, on a cette évolution du truc un peu local, un peu obscur et très populaire, mais qui petit à petit évolue. Plus il est populaire, plus il touche la noblesse, plus il touche la noblesse, plus il s'embourgeoise et s'anoblit lui aussi. Il passe de petit paysan à noble en exil. Et au final, il devient héros nationaliste d'une nation complète. Et puis c'est le cliché finalement de Robin des Bois opposé à l'usurpateur Prince Jean jusqu'au retour glorieux de Richard Cœur de Lion de la Troisième Croisade. Alors que c'est vraiment très très loin du contexte de ces récits originaux. Mais ça pose le contexte du trauma, finalement, de l'invasion normande et de ces querelles dynastiques qui ont marqué l'évolution du pays et que Walter Scott essaie définitivement, finalement, de régler en nous vendant une nation anglaise seule et indivisible.
Parce que du coup, à la base, le personnage de Robin des Bois, c'est vraiment l'incarnation du peuple, quoi, qui va lutter contre l'autorité, donc contre cette filiation normande, quoi.
C'est ça. C'est Robin. On n'a pas forcément de référence directe, si vous voulez, au contexte historique dans les textes qu'on a, en tout cas ceux qui nous ont été transmis. Mais on a clairement cette opposition avec une autorité locale. Ça peut être en fait Robin peut en avoir après essentiellement donc le shérif de Nottingham et toute forme de représentant du clergé. Il y a dans des textes justement il dit aux joyeux compagnons, à Petit Jean, il y a toute la clique en gros de se méfier du shérif de Nottingham et dès qu'ils le peuvent en gros de tomber sur les évêques, de les ligoter, de les dépouiller, voilà, parce que on a cette opposition là. Mais tout en étant parfaitement capable d'aider et de venir au secours, par exemple, de chevaliers qui sont tombés en disgrâce pour X ou Y raison. Et il y a des récits comme ça où Robin va. Il y a un poème notamment où Robin donne à un chevalier une somme d'argent considérable, avec comme seule garantie un serment sur la Vierge Marie, et où il envoie Petit Jean comme écuyer aussi pour le raccompagner, puisqu'il dit qu'un chevalier n'a pas à voyager seul, en dessous de ça. De son grade, et jusqu'à ce qu'il puisse reconquérir ses terres, etc., et qu'il puisse le rembourser. Donc on voit qu'en fait, Robin est parfaitement prêt à aider n'importe qui, mais ça reste très local. C'est-à-dire qu'il peut aller à Nottingham, il peut aller... La forêt originelle, c'est pas Sherwood, c'est la forêt de Barnsdale, mais qui est dans le Nottinghamshire, pareil, c'est pas très loin. Et donc il fait des raids, il va à droite, à gauche, il fait tout ce qu'il a à faire, mais... ça reste très concentré sur un territoire très précis et une autorité très aussi géographiquement localisée. Le pouvoir plus global, il a tendance à l'ignorer.
Et tout ça, on va le développer dans le format qu'on vous proposera en vidéo et puis par la suite en podcast aussi d'ailleurs. On a Maya qui nous demande justement, est-ce que cette réinterprétation de Robin des Bois, on peut aller jusqu'à dire que c'est un outil de propagande ?
Oui, clairement. C'est... J'ai écrit un texte là-dessus. où justement, en fait, à partir du moment où la première référence écrite qu'on a à Robin des Bois, c'est dans un texte littéraire de 1377, c'est Pierce Plowman, où on nous dit qu'en gros, le peuple connaît plus Robin des Bois et d'autres récits plutôt que le Paternoster. Donc, on a cette idée qu'il est très attaché à la population, par opposition au clergé, de fait, puisque le peuple, en gros, se fout pas mal de la messe, mais connaît bien ces histoires-là, il se les retransmet, il les connaît par cœur. Sauf que, d'une certaine manière, ça pose problème, puisque ça représente une figure d'opposition. Robin des Bois, son programme politique, il est marxiste par excellence, c'est la redistribution des richesses, c'est... Voilà. Donc, c'est une lutte des classes qui est fondamentale qui fait partie, en fait, de l'archétype même du personnage. Et donc, en termes de propagande, si on le récupère, si on en fait quelque chose d'autre, si on l'anoblit, ben on a tendance déjà à l'éloigner du peuple. C'est-à-dire qu'on va les priver de leur héros, même s'il reste, ça reste le bon gars, ça reste le type qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Mais on le voit, hein, d'ailleurs, tous les films qu'on peut avoir sur Robin des Bois, et 98%, ils nous montrent le noble... Qui a tout perdu et qui essaye malgré tout de sauver la face et de récupérer un peu ce qu'il avait. On a complètement oublié le fait que, ben, à la base, c'est juste un petit paysan et que ce qui l'intéresse avant toute chose, c'est son petit monde à lui. Le reste, il s'en fout. Donc, c'est clairement de la propagande. De l'avoir anobli au fil des siècles, plus il devenait populaire, plus il intéressait la cour. Sauf que, ben, pour intéresser la cour, si les histoires sont bien, c'est quand même mieux si le héros, c'est pas un bouseux. Et du coup, petit à petit, ça commence à partir vraiment du fin du XVIe siècle à se concrétiser assez dramatiquement en termes de propagande.
S'ils en avaient eu l'occasion et la connaissance, tu penses que l'URSS aurait pu instrumentaliser Robin des Bois et l'équiper d'un marteau et d'une faucille ?
Je suis à peu près sûr qu'ils ont dû le faire, ça. Honnêtement, ça m'étonnerait. Les Russes, de toute façon, ils ont tendance à tout détourner par rapport à ça. À mon avis, ça a été fait. Il doit y avoir un obscur film en noir et blanc. Faudra demander à William Blanc. Je suis sûr qu'il est au courant. Il doit y avoir un film obscur russe en noir et blanc de 6 heures. Le truc imbitable, mais qui parle de Robin des Bois, qui a réadapté le truc. C'est obligé. William, si tu nous regardes et si t'as l'information.
J'irai lui poser la question. Bon, en tout cas, on a pas mal de questions qui ont été posées, qui sont assez générales sur à la fois l'Angleterre médiévale, sur les évolutions linguistiques, sur plein de choses, sur des définitions aussi, peut-être que tu auras la réponse, peut-être que tu ne l'auras pas, mais en tout cas, je te propose qu'on y passe maintenant, on va pas essayer un peu plus de temps, d'habitude c'est 30 minutes de questions, là on en a beaucoup, donc on se laisse 45 minutes. On a Maris Azoulay qui nous demande d'où vient le mot Albion pour désigner l'Angleterre.
C'est quelque chose qui remonte donc à... Au 8e siècle, si je ne dis pas de bêtises. En gros, c'est du coup Bede, dont j'ai pu parler, qui est un chroniqueur anglo-saxon, qui écrit la plus grande chronique de l'histoire d'Angleterre, c'est l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, ça s'appelle, et qui nous dit, livre 1, chapitre 1, l'Angleterre autrefois appelée Albion. Et Albion, en fait, ça vient littéralement du latin. Je dis pas de conneries, j'ai mes notes quand même. Ouais, donc ça, clairement, en fait, ça va être du albus en latin, qui va nous donner cette idée de la couleur blanche, en fait, et qui fait référence aux falaises blanches de Douvres. Donc c'est la première chose qu'on voit quand on arrive en bateau en Angleterre, c'est ces falaises blanches, et ça a donné son nom antique aux îles britanniques.
On le voit dans Astérix et les Bretons, d'ailleurs. On a Corinne Hervé qui nous dit, mais... pourquoi dit-on que les Anglais sont les ennemis héréditaires des Français ?
Bonne question. C'est le genre de truc avec lequel, le genre de cliché en fait avec lequel on grandit quand on étudie l'histoire de France. Enfin, je sais, moi, pour notre génération, c'était un peu ça, c'est cette image qu'on avait là. Alors qu'en fait, quand on commence à regarder les détails de l'histoire un peu de plus près, on est ennemis héréditaires parce que à un moment donné, on a eu la guerre de Cent Ans, techniquement, il y en a même eu plus ou moins deux guerres de Cent Ans, la première ayant été mise fin par Saint-Louis. Mais quand on voit finalement entre la conquête normande en 1066, les différentes zones d'influence, les différents mariages dynastiques, quand on voit notamment à quel point finalement la langue anglaise et française, que la devise de la monarchie britannique, Dieu est mon droit, est en français, que la devise de leur plus grand ordre de chevalerie, l'ordre de la Jarretière, est en français, soit qui mal y pense. Quand on voit que la cause principale de la guerre de 100 ans au Moyen-Âge, c'est justement le fait que le roi d'Angleterre est descendant de Philippe le Bel et donc héritier légitime du trône de France. C'est complètement absurde, en fait. C'est des restes de vieilles propagandes et de vieilles histoires qui n'a vraiment en fait aucun sens d'un point de vue historique et linguistique de dire qu'on est complètement ennemi héréditaire. On est plus cousin qu'autre chose.
Malgré le Brexit.
Voilà, le Brexit, c'est autre chose.
Denis Lefebvre qui nous dit « On m'a souvent dit que l'anglais était essentiellement du français mal prononcé par des Normands. L'exemple souvent donné est musique, dont la calligraphie restait longtemps la même dans les deux langues, mais incapable de prononcer le U français, les Normands le prononçaient you, et donc music. »
Je sais pas si c'est pas Clémenceau qui avait dit ça aussi, que l'anglais c'était du français mal prononcé. C'est pareil, c'est un peu comme le côté ennemi héréditaire, en fait. C'est des vieux clichés qui traînent sur le fait que... Mais ça montre bien, finalement, cette expression, à quel point tout le monde a plus ou moins toujours été conscient que la langue anglaise est très, très française. C'est pour ça qu'elle est aussi intéressante, de mon point de vue, la langue anglaise, c'est qu'elle est super riche de par ses origines. On peut avoir du vieux nord, on peut avoir des mots qui viennent du vieux nord-rois, on peut avoir très très rarement des mots qui viennent de différents dialectes celtiques, mais on a beaucoup de français, on a beaucoup de latin, et c'est super intéressant finalement de voir les différents contextes qui ont mené à cette coexistence, à cette évolution parallèle des deux langues, à ces enrichissements progressifs. Est-ce que c'est du français mal prononcé peut-être ? C'est un point de vue, mais c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Je ne sais pas. On va partir du principe que ça fait partie de tous ces vieux clichés, en fait.
On a Légion qui nous dit « Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Grande-Bretagne alors que ça devrait être la Grande-Normandie ?»
C'est une bonne question. C'est la Grande-Bretagne par opposition à la Petite-Bretagne en armorique, clairement. Après, la Grande-Normandie, ça sonne moins bien, j'imagine. Et c'est que... L'Angleterre normande, elle n'est pas restée normande très longtemps, dans le sens où la Normandie anglaise est très vite devenue anglaise tout court. Donc voilà. C'est des concepts assez. C'est un peu comme Albion ou Britannia ou Grande-Bretagne, etc. Il y a un nombre incalculable de termes différents qui ont été donnés aux îles britanniques au fil des siècles. Pourquoi exactement à chaque fois, on a plus ou moins une explication. Pourquoi pas la Grande-Normandie ? Oui, c'est une bonne question. Ça aurait pu l'être.
Question technique de Swami Prem qui nous dit, alors attention, les Angles et les Saxons étaient des tribus germaniques avec trois genres dans leur grammaire, masculin, féminin, neutre, comme ça existait aussi en latin, mais ça a disparu en français. La logique derrière le genre de beaucoup de noms communs est tout à fait aléatoire, ce qui fait que les langues latines ont des genres différents pour les mêmes concepts. Qu'est-ce qui a fait, si on le sait, que les Anglais ont pratiquement supprimé toute forme de genre pour tous les objets, sauf le cheval et le bateau, par exemple, ainsi qu'une différence entre la forme polie et familiale. A priori, ils sont les seuls en Europe, en tout cas, c'est ce que nous dit la personne qui nous pose la question.
Pourquoi ? Déjà, par rapport à la forme polie et familiale, j'imagine que c'est en référence au you anglais qui couvre tutoiement, vouvoiement. Ça, c'est assez récent dans l'histoire de la langue anglaise, le fait qu'on n'ait qu'un seul pronom pour... C'est super pratique quand on parle à quelqu'un, voilà. On n'a pas d'erreur, on ne fait pas de bêtises. Mais c'est assez récent. Au Moyen-Âge, on avait différentes variations. On pouvait avoir thou, on pouvait avoir ye. En fait, en fonction du contexte, on avait différents pronoms qui pouvaient marquer le tutoiement, le vouvoiement. Il y avait certains pronoms qui pouvaient exprimer aussi juste le fait qu'on s'adresse pas juste à une personne, c'est un vous pluriel parce qu'il y a différentes personnes à qui on s'adresse. Donc c'était vachement plus riche, c'était vachement plus complet. Par rapport à tous les cas, le genre en fait partie, mais par rapport à tous les cas en anglais, le vieil anglais est effectivement une langue germanique, et donc elle était riche de beaucoup de déclinaisons. Et par exemple, je vous donne un exemple tout bête. En anglais moderne, on a stone, stones, la pierre, singulier, pluriel. En vieil anglais, on avait le génitif. Au singulier, ça donnait stan, stanes. Au datif, on avait stan. Et au pluriel, on avait Stana, Stana pour le génitif, Stanum pour le datif aussi. Donc, vous voyez que c'était un peu plus complet que ce qu'on peut avoir maintenant en français. Et on avait ça pour tout, tout le temps. Et ce qui fait que la place des mots n'était pas décisif, en fait, pour, dans une phrase, pour nous donner le sens. Et je rebranche mon PC pour éviter qu'on se tête, ce serait cool. Hop, voilà. Et donc, ça fait que, au contact notamment des Norrois, quand ils ont envahi le pays, les langues étaient très proches, mais il y avait en gros 90% de choses en commun, mais il y avait 10% qui allaient rendre la communication difficile. Et ça s'est progressivement simplifié pour permettre une communication de plus en plus facile. Et au fil des siècles, au fil des influences, que ce soit ensuite les Normands, ensuite, etc., ça s'est systématiquement simplifié puisque les simplifications linguistiques, en fait, ça fait partie de l'ordre des choses. L'être humain est naturellement fainéant. Et pour cela, il a tendance à naturellement aller au plus simple, même dans son usage de la langue, et c'est pour ça qu'on a même aujourd'hui encore ce processus qui se continue, puisque certains verbes irréguliers anglais qu'on a pu nous apprendre quand des gens de notre génération, Benjamin et moi, quand on était à l'école, certains verbes étaient irréguliers, maintenant ils se sont régularisés depuis. Donc c'est un processus qui continue, qui est non-stop, c'est naturel, et tous ces genres, toutes ces différences de pronoms, toutes ces déclinaisons, c'est pour faciliter la communication, essentiellement, que ça, petit à petit, c'était une lente érosion, en fait.
Du coup, faudrait qu'on ait monté de la chaîne linguistique dans le coin pour en parler. Donc, le destin fatal, tel les Nordiques, de chaque langue, c'est d'être de plus en plus simplifié, selon toi ?
Ouais, pour moi, et c'est des restes de mon cursus en sociolinguistique historique qui parle, mais effectivement, la langue, naturellement, se simplifie. De toutes les langues, c'est assez rare finalement des langues qui vont aller en se complexifiant. Il y a des cas, mais de par le contact, c'est Tolkien qui disait ça, ce qui prévaut dans des cas de contact des langues entre des populations, c'est le besoin de communiquer. Et même si on va avoir des confrontations, à un moment donné, on va devoir communiquer avec le parti d'en face, et pour ça, on va avoir besoin d'échanger. Et on a des concepts qui nous permettent de décrire ça de manière très précise en sociolinguistique. Par exemple, quand les Norrois et les Anglo-Saxons se sont rencontrés, même si leur langue était très proche, on va développer ce qu'on appelle un pidgin, qui est en fait une espèce de bâtard des deux langues qui permet de communiquer, qui permet aux locuteurs des deux groupes, admettons un marchand et un vendeur, représentant de chaque un anglo-saxon et un viking, de communiquer. Et donc on appelle ça en fait la pidginisation de la langue, c'est ça, c'est une forme de simplification qui va permettre à deux personnes parlant deux langues différentes d'échanger, de se comprendre en piochant un peu de chaque côté et de créer quelque chose d'un peu bâtard. Et ce pidgin devient en fait une langue maternelle pour les générations suivantes si les populations restent implantées. Et ça devient une forme de ce qu'on appelle du créole. C'est le pidgin qui est devenu langue maternelle et qui devient la nouvelle norme, en fait. Et c'est comme ça que les simplifications se font, souvent.
On a Pinault, justement, qui nous dit « La langue anglaise est-elle un créole qui a réussi ?»
Oui, bah ouais, clairement.
Est-ce que l'Académie française a déjà perdu, du coup ?
L'Académie française a perdu pas mal de choses. À mon avis, elle a perdu la raison depuis pas mal de temps, mais ça, c'est lié à l'âge. Je crois que oui, donc clairement, c'est... Je vais me les mettre à dos, mais oui, donc c'est une hérésie, en fait, d'essayer de lutter de cette manière-là pour imposer des standards qui sont... qu'on peut pas tenir. La langue est vivante et elle le demeurera, et c'est pas, en fait, 40 bons hommes... avec des costumes ridicules et une épée au poignet, qui vont pouvoir imposer à une population à travers le monde un usage particulier de la langue.
Et bien sûr, s'ils nous regardent, on les embrasse très fort. Salut. Capornier qui nous dit « En Normandie, beaucoup de villages ont fleur, barfleur, harfleur, ont une origine scandinave. Le suffixe fleur vient de fieu initialement. Voilà. Y a-t-il le même phénomène en Angleterre ?»
Pas forcément. On a eu ça quand les Anglo-Saxons sont arrivés, mais avec les Normands, on n'a pas forcément eu de trop gros changements. On n'a pas l'impact, si tu veux, de ce genre de choses au niveau des noms de lieux, notamment les toponymes, etc. C'est principalement, comme j'ai dit, parce que ils étaient peu nombreux et qui sont arrivés sur un territoire qui était déjà existant, avec des villes, avec des entités qui étaient déjà là, où quand il y a eu plein de nouvelles villes qui ont été fondées en Normandie sous l'administration normande, au sens littéral du terme, suite à Roland, etc. Donc on a eu des villes qui ont été créées, et c'est en fait les seules traces finalement de l'administration viking en Normandie, elle est là parce qu'ils ont été complètement assimilés. Elle est dans ces noms de lieux, dans ces quelques petites traces linguistiques. Là où en Angleterre, non, on n'a pas eu forcément ce retour-là.
Fred qui dit « Le calva était-il bu avant la victoire, après la victoire, pendant la victoire ou bien les trois à la fois ?»
Je ne veux pas dire de conneries. Je crois que le calva, c'est plus tardif, mais j'aurais tendance à dire qu'ils en boivent avant, pendant, après, au petit-déj, je ne sais pas.
En tout cas, vu qu'on parle d'influence culturelle, quand même, bon, linguistique, voilà, peut-être qu'ils ont apporté le normand bourré, j'en sais rien, mais est-ce que justement ces invasions normandes ont aussi une influence sur la bouffe, simplement?
Est-ce que la nourriture anglaise est devenue meilleure avec l'arrivée des Normands?
Non, mais est-ce que nous, on a apporté des choses bonnes? Bon, voilà.
Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Il y a clairement des choses qui sont arrivées, oui, blague à part, il y a forcément eu... En fait, quand tu as des nobles qui débarquent sur un territoire et qui ne savent pas où ils vont déjà à la base, le Domesday Book étant la preuve que Guillaume a récupéré un territoire sans savoir du tout où il mettait les pieds, ce qui ne savait pas du tout si ça valait le coup d'avoir pris l'Angleterre au final, je vois mal les mecs se débarquer là-bas avec leurs habitudes de nobles sans avoir ramené quelques recettes bien à eux pour continuer de manger quelques plats traditionnels en Angleterre.
Une bonne tartiflette.
C'est ça.
On a Armelde qui nous dit, demande, j'ai entendu dire que les Anglais n'avaient pas de mythologie propre. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont appropriés la légende du roi Arthur? Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est ce que disait Tolkien, effectivement, que l'Angleterre avait été privée de mythologie par l'invasion normande. Mais finalement, oui et non, dans le sens où Les légendes arthuriennes sont celles qu'on connaît, les plus populaires, celles de Chrétien de Troyes, etc., et puis les continuations, sont effectivement fortement associées à l'Angleterre, mais dans une autre langue, en français, même s'il faut bien rappeler que les premières versions, les premières itérations de ces récits-là sont en gaélique, sont vraiment propres au monde celtique, aux îles britanniques, antiques presque, et il n'y a pas vraiment de mythologie. En fait, on voit la différence entre Beowulf, par exemple, où on a ce fond mythologique germanique mêlé de christianisme, si vous voulez. Beowulf date d'avant la conquête normande, et après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de développement. On a tendance à se dire que Beowulf, c'était un peu annonciateur de ce qu'aurait pu être une mythologie anglaise si la conquête normande n'avait pas eu lieu. C'était un des grands regrets de Tolkien, et ça tombe bien que je fasse suite à Vincent Ferré dans ces interviews-là. C'est que, du coup, c'est une des grandes ambitions de Tolkien avec la Terre du Milieu, c'était justement de créer une mythologie propre à l'Angleterre. Donc, d'une certaine manière, il y a une mythologie, mais elle est plus récente.
On a Nico Prady qui dit, mais quel est le dernier roi d'Angleterre d'origine normande?
Élisabeth II. D'une certaine manière, non mais...
C'est pour ça qu'elle ne meurt pas.
C'est ça, en fait, elle était déjà là à l'époque, Élisabeth. C'était la cousine déjà cachée de Guillaume. Mais blague à part, d'une certaine manière, en fait, la dynastie a continué. Le dernier à proprement parler qui serait normand... Je n'ai pas le nom forcément, mais si on reprend, j'aurais tendance à caler ça aux alentours du début du XIIIe siècle, justement, quand on a la scission avec la France, avec les derniers ducs de Normandie qui sont aussi rois d'Angleterre.
Mabarbs qui nous dit « J'avais lu que ces invasions multiples avaient donné son aspect plus souple ou malléable à l'anglais, qui aurait intégré des éléments linguistiques dans sa langue. Elle avait lu ça dans Mother Tongue de Bill Bryson, je ne sais pas le prononcer. Est-ce que c'est bien le cas ?»
Oui, clairement. On a eu cette simplification. Je peux vous donner un exemple tout bête de ce qu'était la langue anglaise à l'époque. Et pourquoi c'était important de la simplifier, en fait. C'est que, en vieil anglais, donc le moyen anglais est déjà très francisé, comme j'ai pu le dire. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse sur Internet. Vous tapez Chaucer, voilà, vous trouvez assez facilement des extraits en moyen anglais. Et vous regardez, vous voyez que ça ressemble vachement au français. Là où le vieil anglais, pour vous montrer à quel point c'était important de le simplifier. Donc, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de cas, il y avait beaucoup. C'était le sens de la phrase n'était pas lié à l'ordre des mots, mais vraiment aux terminaisons des mots. Donc, si vous vouliez dire en vieil anglais le roi salue le thane, donc un titre de noblesse, un genre de duc, on aurait dit c'est Kenen greteth don thane. Mais vous pouviez dire « Von Thang Greatest Killing » et ça voulait dire exactement la même chose. C'est-à-dire que, étant donné que voilà, c'est pas l'ordre des mots qui est importé.
Quand t'es bourré, c'est vachement pratique.
C'est vachement pratique parce que les mots, tu les mets n'importe quel sens et ça marche quand même. Par contre, il faut connaître les cas par cœur et ça, c'est la merde. Du coup, on est bien content de s'en être débarrassé quand on étudie l'anglais aujourd'hui. C'est pour ça que ça me fait marrer quand j'ai mes étudiants qui me disent « Ah, c'est compliqué l'anglais à apprendre. Eh » Va t'apprendre des cas à n'en plus finir, là où maintenant, il y a quatre verbes irréguliers à connaître par cœur. Du coup, oui, ça s'est vachement simplifié parce que à cause de ce genre de choses, en fait, c'était très difficile de communiquer. Ils s'en sortaient quand ils communiquaient avec les Norrois, avec les Vikings, parce qu'à peu de choses près, c'était les mêmes formulations. Il y avait, comme j'ai dit, 10% plus ou moins qui variaient, mais les mots pleins, les mots les plus importants, ils les comprenaient. Ça allait être très subtil, les incompréhensions. Là où avec les Normands, clairement, c'est pas possible de communiquer comme ça. Donc, et avec le français derrière, d'autant plus. Donc, l'influence du français, déjà, le vieux norrois, comme j'ai dit, avec la pidginisation, puis ensuite le créole, etc., on a eu une première vague de simplification. Avec les Normands, on a eu cette simplification qui a continué. Puis l'influence du français, du vieux français à partir du XIIIe siècle a encore largement contribué à cette simplification-là, avec l'introduction de petits mots, les « to »,« by »,« for »,« me », etc., qui vont permettre de clarifier le sens à l'intérieur des phrases en anglais. Tout ça, on le doit à ces différents contacts et à cette nécessité, comme disait Tolkien, de communiquer quoi qu'il arrive. On s'adapte et la langue change pour permettre d'entretenir la communication.
On a Chocolatine qui nous dit « Mais comment expliquer qu'aujourd'hui encore... » Ouais, il aurait pu s'appeler pain au chocolat, je suis d'accord. Comment expliquer aujourd'hui encore qu'on qualifie les peuples du Royaume-Uni, mais aussi des Américains d'ailleurs, d'anglo-saxons, une référence directe aux anciens peuples germaniques continentaux. Ce qualificatif semble avoir curieusement survécu au temps.
Il a malheureusement survécu au temps. C'est-à-dire que moi, quand je parle des anglo-saxons, là, clairement, c'est dans un contexte historique très particulier. C'est-à-dire, c'est les tribus germaniques en place en Angleterre avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant. C'est très problématique, en revanche, de parler d'anglo-saxon pour le monde anglophone aujourd'hui, puisque ça a tendance à vendre une vision très, très blanche, très finalement sélective, de cette vision de ce qu'est l'anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il est protestant, il est blanc et c'est un homme de préférence. Et voilà. Donc, c'est quelque chose de très problématique et dans les études médiévales anglaises, on essaie de lutter contre ça et c'est pas évident puisqu'on a cette vision très présente d'un Moyen-Âge nationaliste, d'un Moyen-Âge blanc, chrétien, qui est repris souvent par les différents groupes d'extrême droite. Et cet attachement, cette vision d'une Angleterre, d'une Amérique anglo-saxonne, elle fait surtout écho à des politiques, à des rhétoriques d'extrême droite, et c'est pour ça qu'on lutte autant que possible contre ça. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif maintenant quand on parle des anglo-saxons.
Et justement, ce terme d'anglo-saxon, nous demande Gusu, est-ce qu'il existe qu'en français ou il existe aussi dans d'autres langues ?
Non, bah, les Anglais déjà à la base, anglo-saxon l'utilise pour parler de... C'est un concept qui était bien pratique finalement pour décrire les tribus germaniques qui sont arrivées. Elles sont anglo-saxonnes, mais en fait, il y a des Angles, il y a des Saxons, il y a des Jutes, il y a des Frisons. C'est toutes les tribus germaniques qui sont au niveau du Danemark actuel qui ont envahi. C'est parce qu'il y a plus d'Angles et de Saxons dans l'eau qu'on les a appelés les anglo-saxons, parce que c'était plus simple que les anglo-saxo-juto-frisons. Mais alors, pour les autres langues, oui, clairement, il y a des équivalences à chaque fois, hein, puisque ça a été très, très, très longtemps, et ça reste encore d'une certaine manière le terme le plus simple pour décrire ces populations-là.
Alors, Mabar, parce qu'il nous pose une question un peu complexe, selon moi, mais qui nous dit, bon, après ces invasions normandes de 1066, est-ce qu'on peut quantifier une influence normande sur l'accent anglais ? J'imagine que c'est compliqué d'avoir une idée de ce qu'est précisément l'accent à une époque précise.
C'est d'autant plus délicat qu'on n'a pas de manière très évidente de données audio. Hein, toutes les formes qu'on a de ces langues, que ce soit le vieil anglais, l'anglo-normand, etc., on a des traces écrites, et on a donc des reconstructions de ce que pourrait être la prononciation de toutes ces langues primitives, d'une certaine manière. On sait très bien qu'on se rapproche de ce que était censé être la prononciation dans ce qu'on a, mais que si on devait voyager dans le temps et essayer de parler à notre manière avec un type du XIVe siècle, persuadé de parler moyen anglais et qui ne nous comprendrait pas et qui nous regarderait pas avec des yeux comme ça. Donc c'est pas évident de répondre à ce genre de questions par rapport à l'accent, la prononciation. On a des traces, hein, on a des choses, notamment par rapport au contact entre les Vikings et les populations anglo-saxonnes. On sait par exemple que tous les mots en anglais du style ship, le bateau, le son sh nous provient du sk en norrois, et tous ces sons là en fait, l'association s et k, sk, qui a évolué, s'est palatalisé, est devenu sh en anglais plus tard, sont d'origine norroise, parce que c'est des sons et des mots qu'on retrouve spécifiquement, voilà. Donc, skip en vieux norrois, et skippen, pardon, et qui est devenu ship ensuite en anglais. Donc, pareil, par rapport aux normands, on a certaines sonorités, je vais peut-être noter des trucs là-dessus, je ne retrouve plus forcément, mais on a certains sons. On sait que c'est l'influence, la proximité entre les populations qui fait que tel son va être prononcé d'une certaine manière dans une autre langue. Mais c'est des cas très isolés. C'est un son spécifique à chaque fois. Ça va pas être sur la prononciation complète de la langue.
On a quelques questions autour de Robin des Bois. Alors, Nico Pradi nous dit, mais Robin des Bois, c'est pas une légende ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé ?
Le fait est que très souvent, dans les sociétés pré-industrielles, donc avant le 19e siècle, ce genre de héros-là, il a toujours plus ou moins une connotation historique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que Robin des Bois lui-même... tel qu'il est vu dans les récits, il volait aux riches pour donner aux pauvres, il se battait contre le shérif de Nottingham, tout ça. Il est possible qu'on ait eu, à un moment donné, une espèce de figure de hors-la-loi dans cette région-là de l'Angleterre, parce que pour que ce soit si fortement attaché à cette région, c'est que c'est vraiment originaire de là, qui ait agi d'une manière ou d'une autre et qui marquait finalement de la population, et de bouche à oreille, ça commençait à créer un récit, etc. C'est parti comme ça. Et d'ailleurs, la coexistence du shérif de Nottingham et de Robin des Bois dans les mêmes histoires, c'est deux récits complètement différents, opposés, qui ont fini, de par leur proximité géographique, finalement, à s'attirer l'un l'autre et à se mêler au sein d'une nouvelle histoire où le shérif affronte Robin. Et donc, c'est possible qu'on ait, pareil, à la base, peut-être un shérif qui a marqué les esprits et qui est devenu une légende de petit à petit, et que des récits se soient créés, etc. Mais c'est impossible d'identifier avec précision, de se dire, bah, c'est ce mec, ça, c'est Robert Machin, là-bas, à l'époque, il fabriquait des chaussures, puis après, il a perdu son commerce, il a été dans la forêt, il se mettait, du coup, à détrousser les curés. On peut pas être aussi précis que ça. Mais on devine, on suppose.
Est-ce que le personnage de Robin, nous demande Kant, peut avoir un rapport, alors le personnage littéraire, hein, peut avoir un rapport avec le Green Man mythologique?
D'une certaine manière, oui, ouais.
Le Green Man, on peut rappeler un peu ce que c'est?
L'homme vert, voilà. C'est une représentation systématique, pas seulement en Angleterre, on en retrouve un peu de partout en Europe, un homme feuillu. Notamment dans les églises, on a beaucoup de représentations, de sculptures d'hommes feuillus dans les églises. C'est un visage constitué de feuilles, de rameaux, de branches, etc. Et donc qui évoque une espèce de d'écho en fait à des croyances primitives, etc. Des significations qui sont pas souvent faciles à identifier en fonction des contextes. Mais en tout cas, ça renvoie très clairement à des figures d'hommes sauvages, à des êtres issus du folklore associés à la forêt, etc. Ça n'a pas encore été attesté de manière claire et précise par la recherche en France. Je travaille dessus, c'est un de mes projets d'essayer d'identifier un peu plus clairement les origines folkloriques de Robin des Bois. J'ai bossé là-dessus pour une vaguement le lien entre Robin des Bois et Merlin l'Enchanteur pour une exposition sur le Moyen-Âge et la forêt qui avait eu lieu cet été. Et on retrouve, en fait, quand on essaye de croiser ce genre de personnages qui, techniquement parlant, n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais on retrouve finalement des choses comme l'homme sauvage, le Green Man, etc., comme des espèces de figures primitives qui ont participé à l'élaboration et à la mythologisation, si on peut le dire, de ces personnages-là.
Alors, un peu plus terre-à-terre que le Green Man, on a tout à l'heure la figure du Yeoman que tu évoquais, donc une sorte de propriétaire terrien. Est-ce que, nous demande Totoff, ce sont ces Yeoman qui sont aussi impliqués dans l'écriture de la fameuse Magna Carta?
Oui et non, en fait. La Magna Carta, c'est surtout les barons qui vont être... À la charge, les yeomen, à la limite, ils vont être derrière à tirer des flèches sur les types, mais ils vont pas forcément être en mesure de dicter quoi que ce soit. C'est un peu le principe de toute forme de révolution, c'est qu'on a tendance à voir ça comme une révolution populaire, mais c'est toujours une forme de noblesse qui en renverse une autre. Avec la Magna Carta, pour replacer le contexte, du coup, on est en 1215, et c'est le prince Jean sans terre. Jean sans terre, parce que du coup, il était censé hériter de rien, qui monte sur le trône de manière plus ou moins accidentelle, d'où son surnom, et qui exerce un pouvoir qui a tendance à être un peu perçu comme tyrannique, et donc les barons vont le forcer finalement à reconnaître certains droits dans l'habeas corpus, etc. C'est les premiers pas d'une monarchie constitutionnelle en Angleterre. Ils vont forcer à signer cette charte. Et c'est plus la révolte des barons qui a poussé à ça que des yeomen à proprement parler.
On arrive un petit peu à la fin de cet entretien, mais il y a une question rigolote par Nanarcho qui nous a été posée. Forcément, on parle depuis tout à l'heure d'Angleterre médiévale. Toi, tu es très versé du coup dans la littérature anglaise. Alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que tu penses des romans de Ken Follett?
J'en ai pas lu un seul.
Oh, d'accord.
Je vais me faire lyncher ou pas, non? Je
sais pas. Oh bah non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai pas tout lu non plus, d'ailleurs. Moi, Les Piliers de la Terre, je trouve, ça vaut le coup. En tout cas, le premier bouquin est vraiment cool. Si je peux donner mon avis, bah, du coup, voilà, je prends la question. Je trouve que le premier tome est vraiment cool. Le deuxième est un peu... Voilà, ça dure quoi, ça dure un peu trop, mais c'est hyper intéressant de voir et surtout d'essayer de comprendre les mécanismes de la société féodale du Moyen-Âge à travers le livre de Ken Follett. C'est un roman historique, mais c'est quand même hyper sourcé quoi. On est vraiment plongé au cœur de la société. Il y a beaucoup de petits détails sur les relations de hiérarchie au sein même de l'église, d'une petite abbaye, de les gens entre eux, de leur rapport à la religion, de tout ça, du rapport aussi des marginaux, puisqu'on suit une femme qui vit dans les bois aussi, et c'est vraiment hyper intéressant. Après, voilà, d'un point de vue littéraire, il y a plein de trucs qui sont critiquables aussi, hein. Bon, moi, je trouve qu'il insiste un petit peu trop sur les jeunes femmes toutes nues, hein. On sent qu'il fait une petite fixette, des fois, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant, et ça se laisse carrément lire, hein, Les Piliers de la Terre. C'est vraiment super intéressant. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette littérature anglaise et à Chaucer d'ailleurs, puisque aujourd'hui c'est quand même le gros de ton boulot, c'est ça.
Bah, ça s'est fait assez étonnamment par étonnamment non en fait c'est tout con, c'est par Tolkien que ça s'est fait. C'est-à-dire que comme beaucoup de gens, je me suis mis à lire Le Seigneur des Anneaux au lycée et j'ai passé le bac, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire, si ce n'est j'avais développé cette fascination pour cette Angleterre-là un peu anglo-saxonne, justement, sans savoir exactement ce qui m'intéressait. Mais de Tolkien, je suis passé à Beowulf et ça a mené à plein de choses. Donc, je suis parti dans ce genre d'études-là parce que c'était finalement le meilleur moyen de me rattacher à l'Angleterre médiévale que Tolkien m'avait donné le goût à ça. Et donc, une chose en entraînant une autre... Au moment de choisir un sujet de thèse, je voulais bosser sur Beowulf, ça n'a pas pu se faire. Mon directeur de thèse m'a dit on va prendre moins vieux, on va prendre Chaucer. Et finalement, ça s'est plutôt pas mal fini, puisque ça, après toutes ces années, je bosse encore dessus. J'en suis pas encore entièrement dégoûté, donc c'est plutôt bon signe. Dans 25 ans, je ne sais pas où j'en serai, clairement, mais pour l'instant, ça va.
Alors, il est tradition quand même dans cette émission de demander à l'invité s'il a quelques livres intéressants à pousser sur les sujets qu'on a évoqués. Alors, est-ce que tu as quelques livres à recommander sur ces influences culturelles, linguistiques, après les invasions normandes de Guillaume notamment ? Est-ce que tu as un peu de promo à faire aussi ? C'est le moment, lâche-toi, tu peux tout nous vendre.
J'en ai plein derrière moi, mais ils risquent d'être un peu pénibles à lire pour pas mal de monde, c'est un peu technique, mais je vous trouverai quelques références et puis je te donnerai ça, Benjamin, comme ça tu pourras mettre voilà. Sinon, étant donné qu'on fait de la promo, Robin des Bois est pas mal, il paraît. J'ai fait un bouquin là-dessus, donc n'hésitez pas. D'autant plus que il y a une introduction assez claire qui recadre un peu tout le contexte, tout ça. Donc, en complément de la vidéo qu'on a fait avec Benjamin, voilà, ça peut être pas mal aussi. Et voilà, je vous trouverai quelques références à mettre en descriptif derrière.
D'ailleurs, sachez que on a fait un podcast avec Aude Méret sur la naissance de l'anglais. Vous pouvez aller voir, qui sera complémentaire aussi de tout ce qu'on a dit ce soir. Et vous pouvez aussi vous intéresser aux travaux de Aude Méret, justement, qui sont assez passionnants sur l'Angleterre médiévale. Voilà. Bah écoute, en tout cas, Jonathan, merci de nous avoir accordé 2 heures de ton temps pour parler de ce sujet. C'était vraiment très chouette. Merci à toi.
Bah, merci à toi et merci à tout le monde au public pour les questions, avoir assisté à cette discussion.
Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau live histoire. Salut les amis. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.